me fais 4000 francs par mois. Je rentre jamais chez moi. Branche ta cibi, je t'appelle sur le canal 19. Salut tous les amis. Salut les coquois de neuf sur le canal 19. Répondez les amis. Il semblerait que le monopole se mette à faire la gueule et à être jaloux. Pareil qu'on a violé les secrets de la défense. On est des subversifs. Dès que les gens communiquent, il y a le pouvoir qui flippe. Branche ta cibi, je t'appelle sur le canal 19. Salut tous les amis. Salut les coquois neufs sur le canal 19. Répondez les amis.
C'est sur mon 34 qui appelle plus 30, qui appelle plus 30. J'ai baissé le volume d'émission. Là, j'espère que vous avez plus de vibrement là sur mon émission, les gars.
Chérie noire. Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. On vient d'écouter un titre des Neo Boys, Rich Man's Dream. Et ce soir sur Jeudi Noir, Michel va nous présenter un livre, Le capitalisme de l'apocalypse, hein, ou le rêve d'un monde sans démocratie. C'est un livre paru au Seuil pour la version française en 2025 et la version américaine en 2023, qui a été écrit par, par l'historien Quinn Slobodian. Et donc, le livre nous présente la thèse selon laquelle le capitalisme tel qu'il s'est développé ces dernières décennies, et plus particulièrement maintenant, tenterait de s'affranchir alors de l'État, je ne sais pas, tu nous le diras, mais en tout cas des obstacles que dresse la démocratie à la toute-puissance des volontés individuelles en fait.
Ouais, alors c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt alors ouais, c'est pas le capitalisme en fait, c'est parce que le capitalisme c'est une catégorie beaucoup trop vaste. Ce serait plutôt certains idéologues favorables à un capitalisme sans limite. D'accord. Donc c'est pas c'est un champ en quelque sorte idéologique fragmenté aussi lui aussi. Et donc, j'y reviendrai là sur cette idée de fragmentation. Et en fait, c'est un livre qui s'intéresse assez spécialement à un courant qui a été longtemps, comment dire, peu connu en France, mais qui depuis quelques années devient nettement plus célèbre. C'est le courant qui s'appelle le courant libertarien, qui est un courant qui a parfois été aussi appelé anarcho-capitaliste, avec des gens qui, d'une certaine manière, vont mettre en avant, au moins d'un point de vue idéologique, la destruction de l'État, d'une manière ou d'une autre, pour favoriser l'apparition finalement de relations marchandes, universelles entre, comment dire, plutôt le, c'est l'idée que les individus ne seraient plus liés que par des relations marchandes ou presque, ou des relations contractuelles, sans qu'il y ait de relations politiques qui se superposent à ça.
Donc quand tu dis ça, moi ça me fait vraiment penser, et pourtant je pense que ça s'en distingue, ce que tu disais, à la vision, non pas néolibérale, mais néoclassique d'un marché complètement atomisé, affranchi de toute norme, à part celle du marché, de l'offre, de la demande, etc.
Alors, c'est possible, parce que c'est, comment dire, alors c'est un courant qui est représenté par des philosophes comme... comme Murray Rothbard d'un côté, dont j'aurai peut-être l'occasion de reparler, et comme qui a écrit un livre qui s'intitule L'éthique de la liberté, et un autre philosophe américain de ces années-là, qui avait publié le État, anarchie et utopie, Robert Nozick. Alors les deux sont en désaccord sur la place de l'État, puisque Rothbard lui veut l'éliminer intégralement, et le remplacer, enfin comment dire, et, pour lui les services de police ou d'éducation devraient être remplacés par des sociétés privées. Mmh. Et donc voilà, alors que Nozick pense que c'est impossible et que de fait un État minimal ressurgirait quoi qu'il en soit. Et donc lui il est plutôt, il est pas anarchiste de droite comme Rothbard qui était aussi complètement raciste, j'y reviendrai. Il est plutôt, on dira, minarchiste, c'est-à-dire en faveur de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'État veilleur de nuit, c'est-à-dire un État qui serait réduit à ses fonctions les plus limitées de comment dire, de faire respecter les contrats, la sécurité intérieure et sans doute la sécurité extérieure. Et tout le reste, ça, ce serait au gré des individus qui contractent, s'ils le souhaitent ou non, avec les différents services dont ils estiment avoir besoin. Sachant que tous ces gens-là sont surtout d'accord, et politiquement ça se manifestera comme ça, pour dire que l'impôt redistributif c'est du vol, oui, littéralement. Ça c'est leur point commun, et c'est ce qui fait, et c'est sans doute la base essentielle d'ailleurs de leur idéologie, et c'est ce qui fait que très très fréquemment ils s'allieront avec des conservateurs beaucoup plus classiques, qui eux sont pour un État relativement costaud. Mmh. Tant que tu détruis les impôts, ils sont contents. Mais alors ici je voudrais dire deux trois choses peut-être, parce qu'on avait déjà présenté le... Peut-être déjà, on avait déjà présenté un peu l'auteur, Slobodian, parce qu'on avait présenté un de ses bouquins sur le globalisme. C'est moi qui m'en étais chargé, je crois. Les globalistes, ouais. Et c'est un historien donc de la pensée économique canadien. Et j'y reviendrai parce que je pense que c'est un peu intéressant ce côté-là. C'est pas quelqu'un qui va se limiter à la simple présentation de l'idéologie des libertariens. C'est quelqu'un qui la confronte avec ensuite les faits. Et donc, il montre aussi les incohérences du discours. Ensuite, deux ou trois mots quand même aussi sur le titre, le capitalisme de l'apocalypse, qui est un,
traduction.
Qui est un peu racoleur, je pense, parce que globalement, je pense qu'une traduction peut-être plus exacte, ça aurait été sans doute le capitalisme de la fragmentation. L'apocalypse, il n'en est pas fait vraiment mention dans le livre, si ce n'est quand certains libertariens rêvent de voir l'État fédéral américain s'effondrer pour être remplacé par des petites communautés qui s'auto-organiseraient souvent sur une base, à la fois volontariste, sociologique et raciste. Okay. Donc là-dessus, bon, le titre est peut-être, j'imagine qu'il a été plus ou moins choisi pour attirer l'œil. C'est vrai que ça marche, hein. Moi j'ai vu le capitalisme et l'apocalypse, je me suis dit le capitalisme et l'écologie, et en fait pas du tout. Donc là-dessus, bon, c'est sans doute plus du côté de l'éditeur qu'il faut aller voir, même pas forcément le traducteur, l'éditeur, pour aller voir le choix du titre. Ensuite, il faut quand même que je dénonce mes camarades, parce que ils se sont battus pour savoir qui irait en régie, parce que le livre ne les enthousiasmait pas.
Allons.
Et ils ne l'ont même pas dit avant l'émission, parce que sinon, je ne l'aurais pas lu. Donc voilà, je vous déteste. Jean-Mathias, Morad, une déclaration officielle. Jean-Mathias est l'indifférent, là, dans son studio.
Tu vas tout nous expliquer, on va mieux comprendre.
Moi, j'en suis pas sûr. Alors, donc, je disais capitalisme de la fragmentation. Donc, ça va être quoi, en quelque sorte, l'idée un peu générale du bouquin? On pourrait penser que d'une certaine manière, Slobodian a changé d'objet, puisqu'il est passé des globalistes, finalement, quasiment aux localistes, ceux qui veulent s'organiser sur des bases beaucoup plus limitées, dans des sociétés, sans État. Très
et donc
souvent.
Pour lui, dans ce bouquin-là, on a quand même une espèce de tournant assez radical, justement par rapport à ce qu'il disait dans les globalistes.
C'est pas les mêmes courants. Non, c'est pas les mêmes courants. C'est pas les mêmes gens. C'est pas les mêmes réseaux. Enfin, parfois si.
C'est la même époque.
C'est plus ou moins la même époque. Ils ont parfois les mêmes références. Von Mises. Il y a la société du Mont Pèlerin qui est un peu omniprésente. Donc après, la question, c'est de savoir qu'on pourrait se poser éventuellement. Alors, il y a des désaccords idéologiques qui peuvent se manifester, par exemple. Entre Milton Friedman et son fils, David Friedman, je crois.
Oui.
David Friedman qui, lui, justement, se déclare anarcho-capitaliste, alors que Milton, Friedman, son père, pas du tout. Mais globalement, c'est à peu près les mêmes milieux sociaux, c'est souvent les gens qui gravitent un peu dans les mêmes sphères, sociales, économiques et autres, mais ils ont des désaccords idéologiques qui sont peut-être de façade. Parce que moi, il me semble, à lire, pour avoir lu les deux bouquins de Slobodian, de façade au sens, alors ils sont peut-être convaincus que ce sont des radicalement opposés, hein, mais c'est sur des questions doctrinales en vrai. Parce que sur les questions pratiques, et quand il s'agit de décider, en général, ils tombent d'accord. L'idée étant que on pourrait voir ça comme ça. Dans son bouquin sur les globalistes, il présentait un projet, idéologique, de contournement des États-nations par le haut. Comment, en gros, ils ont un problème, c'est le lien, si vous voulez, le fait que, pour beaucoup d'auteurs, beaucoup de gens, il y avait une espèce de lien un peu intrinsèque ou un peu interne entre le capitalisme et la démocratie libérale. Sauf que tous ces gens-là commencent souvent leur carrière sous un régime keynésien. Et donc, pour eux, la démocratie libérale, c'est l'État-providence, et donc c'est le communisme, et donc c'est affreux, il faut en finir. Et à partir de là, il va y avoir des stratégies différentes pour... pour mettre fin à ce capitalisme un peu teinté de social-démocratie qui eux détestent. Donc je disais contournement par le haut avec des règlements internationaux sur lesquels les électeurs des démocraties libérales n'ont pas prise. Genre on peut pas, c'est le GATT. On peut pas, c'est l'Europe. On peut pas, il y a des accords de commerce bilatéraux. Et donc là-dessus, ça c'est une première approche. L'idée, ça c'est l'approche globaliste.
Globaliste, donc c'est l'idée de encadrer en fait les nations par un droit essentiellement économique international qui permet de domestiquer les velléités souverainistes. En fait, c'est ça.
Tout à fait. Okay. Et de l'autre côté, le souci par rapport à des anarchistes de droite ou à des minarchistes comme Nozick, c'est que ils y voient aussi peut-être le spectre d'un État mondial que eux ils détestent et d'une réglementation. Oui. La réglementation ils aiment pas de toute façon.
Oui, un État mondial à la Piketty avec une fiscalisation, enfin fiscalité.
Bah, pour eux ce serait le danger, je pense.
Oui, voilà.
C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances qu'ils y voient le comment dire, comme ils voient toujours un engrenage fatal. Pour eux déjà la social-démocratie et l'État-providence, c'est le premier pas vers le stalinisme limite. Oui. Donc évidemment si tu leur commences à leur parler d'une réglementation mondiale qui va encadrer les marchés, ils peuvent pas être d'accord. Je pense. Et donc, eux, leur projet, ce serait plutôt d'essayer de miner l'État au niveau local. Et donc, tout le livre, en fait, va s'attacher à l'étude de, des zones. Et ce qu'il essaye de montrer, c'est que, globalement, dans les années 70-80, t'as un peu moins de 200 zones. Qu'est-ce que c'est qu'une zone ? Alors, c'est assez intéressant. Il l'a défini au début. Alors, c'est un peu composé comme ces bouquins anglo-saxons où il y a 3-4 idées directrices qui sont exposées au début du bouquin et puis ensuite, il y a 50 exemples.
D'accord.
Donc, ce qui fait que conceptuellement, on peut trouver que c'est peut-être un peu l'architecture conceptuelle est un peu limitée.
Des cas d'études
Ouais. Okay. Alors, organisé, parce qu'il y a le côté un peu historien, mais malgré tout, voilà, il y a une idée, c'est des gens qui veulent miter le tissu des nations, avec leurs réglementations trop contraignantes qui sont souvent liées, évidemment, au désir égoïste des pauvres qui voudraient réglementer le capitalisme. Mmh. D'accord? Ça, c'est évidemment, c'est leur mythologie à eux.
Oui.
Et donc, le but, ça va être de casser toutes ces réglementations en faisant des espèces de zones,
séparation.
De zones dans lesquelles il va y avoir des réglementations spéciales. Et donc, l'idée, ce serait, dans l'idée, voilà, zone, c'est quoi? Il s'agit d'une enclave au sein d'une nation qui échappe aux formes ordinaires de réglementation. Souvent, les dispositions fiscales sont suspendues à l'intérieur de ces frontières, ce qui permet aux investisseurs d'y dicter leurs propres règles. Les zones ont un statut de quasi-extraterritorialité, à la fois appartenant à l'État hôte et se distinguant de lui. Il en existe un grand nombre de variantes dans le monde, au moins 82, selon une estimation officielle. Parmi les plus connues, on peut citer les zones économiques spéciales, les zones franches d'exportation ou les zones de libre-échange. Donc ici, ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, on était parti de 200 zones il y a 30 ou 40 ans. Maintenant, il y en aurait à peu près 5400.
Ah,
okay. C'est quelque chose qui s'est énormément développé, qui a eu un succès fou et qui, est parti des franges, en quelque sorte, Afrique, Asie, Amérique du Sud, et qui progressivement a pris aussi, s'est développé dans l'Occident, disons, dans les pays riches, avec une stratégie tout à fait explicite de contournement des réglementations sociales en vigueur, au niveau national.
Et par exemple, les paradis fiscaux, etc.,
ça en fait partie. Ça en fait partie tout complètement, parce que lui, il va dire, voilà, à une extrémité du spectre socio-économique dans ces zones, on trouve des réseaux de production transfrontaliers. Des espaces industriels, souvent sains de barbelés, où travaille une main-d'œuvre faiblement rémunérée. Ça, c'est une zone particulière.
Des minuscules zones qui peuvent être des entrepôts, en fait.
C'est ça, où tu as des gens qui bossent en dehors des réglementations locales. À l'autre extrémité se trouvent les paradis fiscaux que les multinationales utilisent pour domicilier leurs bénéfices. Mmh. La fuite des bénéfices des entreprises vers ces territoires à fiscalité faible ou nulle représente un déficit de 70 milliards de dollars par an en recettes fiscales pour les seuls États-Unis, tandis que la part de la richesse mondiale abritée dans les paradis fiscaux offshore est estimée à 8 700 milliards de dollars. Donc là-dessus, il peut y avoir des îles Caraïbes, il cite un truc qu'Obama avait cité, d'un bâtiment qui hébergeait 12 000 sociétés.
D'accord.
Dans les îles Caïmans.
Ah oui, okay. Des sociétés, de fausses sociétés ou de vraies sociétés ?
Domiciliation fiscale.
D'accord.
Donc, sans doute fausses sociétés. Des vraies sociétés qui sont domiciliées fictivement, fiscalement, dans des pays où qui ne réclament aucun impôt. Et donc, c'est ça qu'il va surtout étudier. Et donc, ici, l'idée, ça va être... il dit, voilà, la majorité des zones donc, se trouvent... il prend plusieurs modèles, plusieurs métaphores. Hein. Il y a percé des trous dans le territoire de l'État-nation... il peut y aussi avoir qui reprend un Grégoire Chamaillou, la politique du Capricorne, c'est-à-dire le petit parasite qui fait des trous dans le bois. Et vous avez aussi la dentelle, enfin tout un tas de trucs qui vont essayer, parce que les zones, ça peut être aussi, les zones vont s'articuler les unes entre elles, les unes aux autres. Et tout ça c'est relativement réfléchi. Et donc l'idée, ce qui ensuite qui va voir, c'est Et ça, ce serait curieux, ce serait à discuter, voilà, parce que bon, les plus ardents défenseurs de ces zones se trouvent souvent dans les pays occidentaux, qui voient en elles la possibilité d'expérimenter ce que Slobodian appelle les micro-ordres, c'est-à-dire créer des arrangements politiques alternatifs à petite échelle. Et pour eux, c'est un instrument de choix pour réaliser l'utopie du libre-marché. C'est des utopistes. Il y en a pas mal, là, il est décrit, ils sont complètement barrés. C'est des gens qui sont quand même, qui sont souvent sur des positions, comment dire, idéologiques, paradoxales pour ne pas dire contradictoires, et qui se disent, qui sont, comment dire, qui peuvent être consultants et puis ensuite à moitié guérilleros. Enfin, t'as toute une galerie de personnages assez, assez étonnante. Et donc là-dessus, moi, ce que j'ai trouvé pas mal dans le bouquin, quand même, alors, il dit jeter un coup de la lumière. Pour lui, ça part des années 90, ce délire des zones. Et comme je vous le disais, le but, c'est le sécessionnisme, c'est pas le globalisme, afin de miner essentiellement, je dirais, l'État.
Est-ce qu'il explique comment.
La démocratie plus que l'État.
La démocratie.
Plus que l'État.
Est-ce qu'il explique comment. Bah justement, on est quand même, ce que tu disais, dans des États,
oui.
Finalement. Est-ce qu'il explique comment les États permettent ça? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Comment elles se développent, en fait, ces zones?
Alors, il va l'expliquer, mais ça, après, je pourrais peut-être parler des cas concrets. C'est-à-dire, oui. Ce sera dans un deuxième temps, peut-être. L'idée, c'est que c'est toujours pareil. C'est que c'est pas forcément l'État qui gagne. Ça peut être éventuellement. Sa classe dirigeante, c'est-à-dire qui voit un moyen
donc
de...
Des intérêts très particuliers, en
des
fait.
Des intérêts très particuliers. Thatcher a été à fond, par exemple, a défendu à fond les zones. Et après, bon, là, il y aurait peut-être des trucs intéressants à dire, parce que, d'une certaine manière, ce qu'il étudie, je pourrais dire, c'est les ZAD, c'est les ZAD des riches.
Oui, ou les phalanstères des riches.
Voilà, leur zone à défendre, ça va être Hong Kong, ça va être le Liechtenstein, ça va être... ça va être Monaco, ça va être tout un tas de coins comme ça. Singapour hyper important, les Bantoustans en Afrique du Sud, et donc il prend pas mal d'exemples là, comment dire, l'apparition des petits États à la suite de l'effondrement de l'URSS, la Somalie où il voit l'occasion, l'Afrique du Sud, et donc tout un tas de coins comme ça où finalement pour X raisons ils se sont dit que ils pouvaient arriver à produire des zones où les riches seraient à l'abri des règles fiscales de la de démocratie libérale relativement relativement partageuse peut-être très relativement.
Ouais.
Mais bon après le truc c'est que eux ils ont peur de quelque chose, oui, quand on craint le communisme à travers l'État-providence, c'est qu'on n'est pas forcément très très au fait des faits. Donc voilà, on va faire une première coupure pour un peu de musique.
Ensuite.
Les paroles du pouvoir sorties des médias s'enfoncent dans nos mémoires et sèment le désarroi. Le règne du désespoir devient immédiat. On regarde sans rien dire le monde se mettre au pas. Où est-elle donc ma place privée? Un jour on en a marre, on ouvre le débat. Ça se termine en bagarre, on ne nous écoute pas. On nous traite d'anarchistes, nous sommes les parias. Ils n'ont qu'une idée en tête, ils veulent nous mettre au pas. Où est-elle donc ma plage privée? Bruxelles devient un soir une zone de combat. Le millénaire qui foire, le bourgmestre est baba. C'est la nuit de l'espoir où le monde est roi. Et les flics sont ce soir-là les seuls qui marchent au pas. Où est-elle donc ma plage privée? Quand viendra la victoire, qui sait où l'on sera? Voiture, travail, villa, on ne la voudra pas. On aura le pouvoir, on se tiendra droit. On regardera de travers ceux qui ne marchent pas au pas. Je l'ai trouvé.
Libertaire. Mmh. Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire, 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et ce soir, c'est la deuxième partie de Jeudi Noir qui commence. Vous venez d'écouter un titre de Polyphonic Size, Plage Privée. Et un titre très opportun, puisque justement Michel nous parle du livre de Queen Slobodion, Le capitalisme de l'apocalypse, paru en janvier 2025, qui parle notamment de l'atomisation des États, par des espèces de zones plus ou moins micro, plus ou moins grandes, qui s'affranchissent de toute réglementation, de toute forme de fiscalité, pour créer des espèces d'enclaves libérées de l'État et surtout de la démocratie. Quoi.
Surtout de la démocratie. On verra ça sans doute dans la conclusion de l'émission. Qu'en réalité, contrairement à ce qu'ils prétendent et contrairement à leurs déclarations, leur délire ne mine pas du tout le pouvoir de l'État. Et au contraire, peuvent être mis au service de superpuissance. Ensuite, un des trucs à prendre en compte, peut-être, qui est relativement intéressant, je pense, c'est que pourquoi, en quelque sorte, enfin, une partie de ce discours peut sembler étrange si on a grandi, disons, pendant la guerre froide, parce que, justement, un des arguments de vente, je dirais, des démocraties libérales, c'était d'être le monde libre, face à un communisme qui, lui, ferait disparaître la liberté politique derrière un projet politique totalitaire. Et donc, ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces gens-là, que ce soit les Friedman, père et fils, que ce soit Notzig et les autres, n'aiment pas la démocratie et n'aiment pas du tout l'idée que, finalement, le capitalisme soit nécessairement associé à la démocratie. Et d'une certaine manière, l'idée de vendre le capitalisme comme le monde libre, ça leur déplaît. Et donc là, ils ont trouvé, en quelque sorte... Slobodian va s'intéresser à plusieurs cas qui ont été des sources d'inspiration pour les anarcho-capitalistes de différentes obédiences, y compris d'ailleurs quand ça s'est appuyé sur une falsification totale des faits et de ce qui s'était réellement produit dans ces trucs. Et un premier exemple qui est sans doute intéressant, c'est Hong Kong. Parce que, en quelque sorte, grâce à Hong Kong, là, ce que va dire, c'est un des trucs qui va fasciner Milton Friedman, qui va dire... globalement, alors il écrit, ça c'est un truc qui est assez célèbre dans Capitalisme et Liberté, en 2002. Son best-seller, c'était une préface écrite en 2002 à l'occasion de son best-seller qui s'appelait Capitalisme et Liberté. Et lui, en 2002, il écrit « Si la liberté économique est la condition nécessaire à la liberté civile et politique, et aussi désirable que puisse être cette dernière, la réciproque n'est pas vraie. On n'a pas besoin de liberté civile et politique pour obtenir la liberté économique. » Et la réciproque n'est pas vraie, il faudrait même aller plus loin, la liberté civile et politique est en entrave à la liberté économique. Exactement. Et donc, là-dessus, le truc qui va les fasciner chez Hong Kong, c'est que justement, pour eux, ça va être une espèce de modèle, parce que pour eux, c'est une espèce de paradis colonial capitaliste.
C'est parce que Hong Kong, c'est quoi en fait?
Alors Hong Kong, le truc c'est que Hong Kong, c'est une à la base, ça va être un des points d'entrée de l'impérialisme anglais en Chine. Et globalement, Hong Kong va appartenir aux Anglais à la fin du 19e siècle. Ils obtiendront une concession à la suite des guerres de l'opium, parce que les Anglais à ce moment-là luttent parce qu'ils produisent beaucoup d'opium en Inde, et un de leurs buts, c'est d'en vendre aux Chinois. Donc ça produit des ravages, c'est une catastrophe sanitaire en Chine. Le pouvoir politique chinois de l'époque voudrait bien empêcher les Anglais de vendre de l'opium aux Chinois, sauf que ça va faire ce qu'on a appelé la guerre des boxeurs, qui sont en fait des guerres de l'opium. La guerre des boxeurs, c'est un peu mieux, parce qu'on oublie qu'en fait les Anglais voulaient vendre de la drogue en Chine, quoi. Et c'est à partir de là, et c'est à la suite qu'ils vont gagner ces guerres, les guerres de l'opium, et ils vont extorquer aux Chinois, en quelque sorte, la gestion du port de Hong Kong. Et ensuite, ça va se poursuivre avec l'établissement de tout un tas de comptoirs où finalement les Occidentaux établissent différentes bases commerciales sur la façade pacifique chinoise, où ils peuvent écouler leurs produits sans que le pouvoir politique chinois puisse en quelque sorte protéger son économie intérieure. Donc là-dessus, ce qui va beaucoup les intéresser, c'est que donc c'est des malgré tout ici. Ils voient dans, en quelque sorte pour eux quelque chose qui vient du passé mais qui pourrait être être l'avenir. Et pourquoi ? Parce que comment le truc c'est quand et quand est-ce qu'ils découvrent Hong Kong ? On cherche des citations intéressantes. C'est que là-dessus globalement pour eux le modèle, comment dire, la réussite économique de Hong Kong est liée à l'absence de démocratie. D'accord. Alors, c'est plus compliqué avec l'État, parce qu'en fait, on a affaire à des économies, que ce soit Hong Kong ou ailleurs, qui sont très très planifiées, et où il y a une minorité qui possède l'essentiel des biens, et cette minorité est souvent quasiment indiscernable de la minorité qui contrôle aussi l'État. Et donc là, il y a une des contradictions internes au discours très très souvent libertarien qui consiste, c'est qu'en fait ils voient tout simplement là où quand il n'y a pas de démocratie, ils en concluent qu'il n'y a pas d'État. Ouais. Et donc là, je pense qu'il y a un truc qui est comment dire problématique, un des problèmes fondamentaux de leur idéologie, ce qui fait que parfois c'est dur à comprendre parce qu'on se dit mais c'est n'importe quoi en fait, c'est complètement dément. Mais la réalité, c'est que pour eux, c'est justement l'absence de vie politique qui a permis la liberté économique. Et donc ils vont dire, voilà, pour quel résultat, une vie pas toujours confortable et parfois un peu précaire, mais une vie où les gens qui travaillent acceptent le verdict des forces du marché. Tu voulais dire quelque chose? Là, je te vois perplexe.
Non, mais parce que justement, je commence peut-être à comprendre un peu, parce que moi, la question que je me posais, c'était justement, comment est-ce qu'on concilie des régimes autoritaires, je sais pas, l'Italie de Meloni, par exemple, avec justement ces zones-là qui existent, par exemple, en Italie aussi. Et donc, une volonté qui peut paraître comme un état fort, en fait, pour ces régimes-là. Et en fait, si on explique que cette vision-là repose sur l'absence non pas d'un état, mais d'un état social, alors peut-être que ça peut devenir cohérent.
Oui. Sauf que eux, ils vont maintenir la destruction de l'État comme, comme objectif, en tout cas idéologique. Alors souvent, Sobanian note que ils comprennent soit ils nient les faits, soit ils n'ont rien compris. Dans le cas de Hong Kong, ce qui les fascine en vrai, c'est des choses du type. Alors par exemple en 78, alors ce qu'il faut aussi voir, ce que j'ai pas dit, ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi des gens qui ont été souvent, qui font partie d'une espèce de backlash, de retour de bâton par rapport à tout le mouvement de gauche des années 60-70.
D'accord.
Et c'est très très comment dire, c'est très très présent pour eux ce truc-là. Ils ont encore peur d'une victoire du communisme, et donc ils sont dans une guerre idéologique. Et la guerre idéologique, ils l'amènent très très souvent contre leur propre pays. Alors là, je vous cite un exemple. En 78, alors que le taux maximal de l'impôt sur le revenu est de 83% au Royaume-Uni et de 70% aux États-Unis, Hong Kong ne prélève aucun impôt sur les plus-values ou les successions et applique un impôt sur le revenu uniforme de 15%, la fameuse flat tax. La flat tax, c'est un de leurs objectifs premiers à tous ces gens-là. Ils veulent qu'il y ait une imposition uniforme à 15%.
Et qui servirait à quoi ?
Alors, qui sert à quoi ? Sans doute à payer plus ou moins la police, l'armée. Là aussi, ils se heurtent à des contradictions. Parce qu'ils se heurtent à des contradictions qui sont liées, par exemple, à la défense de la propriété privée. L'État défend très très bien la propriété privée, parce que il peut mettre en place une police, une armée, et au niveau national, c'est vachement plus puissant qu'à un niveau local. Mais ça, c'est une autre contradiction à laquelle ils se heurtent, mais un peu plus tard. Et donc, ici, l'idée, le secret donc, qui a permis à Hong Kong de devenir le seul endroit véritablement capitaliste sur Terre, comme l'a dit le directeur de la Chambre de commerce hongkongaise, et que le territoire n'a succombé ni aux sirènes de la décolonisation, ni à celle de la démocratie. Et ce modèle colonial va perdurer, parce que beaucoup de zones qui seront établies justement par ces gens le sont dans des contextes néo-postcoloniaux. Où globalement, on va essayer de... Et le modèle de Hong Kong la servira encore, et sans doute que la Chine dite communiste le fait encore, c'est-à-dire justement implanter des petites zones dans lesquelles il y a un droit spécial où le pays qui installe la zone peut faire rentrer ses produits, peut les produire à des conditions qui lui sont favorables, en échange de 2-3 bricoles contre le pays hôte.
Okay.
Et donc là-dessus, avec l'idée que justement, alors ça c'est la société du Mont Pèlerin, mais il voit ça dans une réalisation à Hong Kong, c'est l'idée que le capitalisme doit être protégé à l'ère de la démocratie de masse.
D'accord.
Et donc, l'idée aussi, ils partagent tous l'idée, alors ça, c'est un peu compliqué dans le libertarianisme, parce que vous avez des conflits entre les anarcho-capitalistes et les minarchistes qui veulent un État minimal, mais l'idée aussi que le rôle de l'État est de protéger le marché.
Ah.
Tu vois ?
Donc, oui.
Et donc là, évidemment, ceux qui sont contre, totalement contre l'État, à mon avis, là, il va y avoir des petits soucis. Et non de posséder les biens, des biens, de gérer des ressources, de diriger des entreprises ou de fournir des services comme les soins de santé, le logement, l'eau, le gaz, l'électricité ou encore des infrastructures. Et donc assurer la sécurité, ça c'est les fonctions régaliennes, assurer la sécurité intérieure et extérieure, protéger la propriété privée et le caractère sacré des contrats, tels devraient être selon eux les rôles auxquels l'État devrait se limiter. Ça ce serait plutôt la ligne nazique,
oui,
okay. État anarchie utopie, État totalement minimal. Et donc là je te voyais encore... Non ?
Non, c'est bon, je comprends.
Tu comprends ? Donc il le dit justement, les différences, comme nous le verrons, se situent entre ceux qui croient en un État minimal, parfois appelé minarchiste, et ceux qui ne veulent pas d'État du tout, anarcho-capitaliste. Et donc, là-dessus, est-ce que je peux vous dire deux, trois choses de plus ? Alors oui, un truc rigolo quand même, parce que, bon, le livre a peut-être des défauts aux yeux de Jean-Mathias, qui est toujours très très critique et plutôt un être négatif globalement. je profite du fait qu'il est en régie pour dire du mal de lui. moi j'ai quand même appris énormément de choses en termes de, il y a tout un tas de petits trucs que j'ai, plein de choses que j'ignorais dans le bouquin, des faits que j'ignorais. Et par exemple, Hong Kong a pu être vanté comme en 1967 à l'apogée des luttes anticoloniales, alors que la nation était encore l'horizon de la libération, Che Guevara avait appelé de son vœu de nombreux Vietnam. Et en 79, le magazine libertarien Reason lui fait un clin d'œil en transformant le slogan, appelant la création de 2-3 de nombreux Hong Kong. Ici, il y a une espèce de truc de concurrence, je dirais, radicale, avec d'un côté donc créer des foyers, le fauquisme, des foyers de libération nationale à partir du mouvement socialiste de libération, et de l'autre, non, créer des endroits où finalement l'entité politique est au service de la protection, du marché. Et je pourrais aussi peut-être citer rapidement, oui, il me reste peut-être 2-3 minutes, encore dans 2-3 minutes, je ne vais pas faire comme Jean-Mathias. l'autre modèle qui va les fasciner et qui, en même temps, montre pas mal les contradictions, je pense. Alors, ensuite, le deuxième modèle, ce qui prend dans son premier chapitre, qui est consacré à des îles, c'est le modèle de ce qui s'est produit à Londres, avec la fabrication sous Thatcher,
ah, oui.
Ça s'appelle les Canary Wharf. C'était des anciens docks qui accueillaient les fruits qui venaient des îles Canaries, où en fait ils ont construit une espèce de zone comme ça. Et ce qui est intéressant à un moment dans ce chapitre, c'est qu'on voit qu'en fait il y a une lutte entre le municipalisme socialiste anglais, mené à l'époque par Ken Livingstone, qui veut, lui, que les municipalités aient le contrôle sur l'espace économique de la cité, de la ville, et Thatcher qui va détruire ça, et qui va, en quelque sorte, détruire tout le socialisme municipal. Parce que ici, il y a justement une lutte pour le contrôle, en quelque sorte, de l'utilisation de l'espace. Et elle, ce qu'elle veut, évidemment, c'est construire une espèce de zone comme à Hong Kong.
Oui,
et il rêve de ça. Il rêve vraiment de ça. Et le dernier exemple qu'il prend et qui est aussi très très intéressant, ça va être Hong Kong. Ça va être le Singapour, pardon. Parce que, justement, eux, c'est là ce qui les intéresse. Ça va être... Alors, c'est pétri de contradictions, ces trucs-là. À Hong Kong, par exemple, ils ne voient pas tous les mouvements de contestation sociale. Évidemment, et ça, ils n'en parlent pas. Pour eux, c'est un modèle. Et ils ne voient pas que les gens manifestent, essaient de lutter pour garantir certaines libertés politiques. Et Singapour... dans le cas de Singapour, qui, pareil, les fascine parce que c'est un petit pays qui n'a quasiment... Enfin, c'est une ville-État, c'est une cité-État, qui n'a quasiment aucune ressource naturelle, qui importe tout. Et donc, eux, ils sont... Ils sont fascinés par l'idée que, finalement, une entité économique peut survivre en n'ayant quasiment aucune ressource économique, juste en servant de zone de transfert. Avec un minimum de liberté politique... même harcèlement, harceler les communistes, etc., etc. Mais par contre, là, ce qu'ils voient pas, et ce qui les embêterait beaucoup, sans doute, s'ils le voyaient, c'est à quel point c'est une économie planifiée, Singapour. C'est-à-dire que vous avez le même gars à la tête de l'État pendant environ 30 ans, qui est un gars qui n'est pas du tout singapourien, même s'il se revendique du confucianisme, il a grandi en Angleterre. Et en fait, tout est planifié et tout est organisé afin de passer finalement d'une économie de production de biens de petite valeur, progressivement monter en gamme, pour finalement passer à la financiarisation, des choses comme ça. Mais tout ça, c'est de la planification étatique. Alors évidemment, ça colle pas avec le discours, mais ce qui colle, c'est plutôt ce qui va coller, c'est la disparition de toute tentative de démocratique. Voilà. Donc peut-être que je vais m'arrêter ici et puis faire une petite pause.
Sale riche, tu perds ton temps. Sale riche, rends-moi mon argent. Sale riche, tu perds ton temps. Sale riche, rends-moi mon argent. Sale riche, tu perds ton temps. Sale riche, rends-moi mon argent. Sale riche, tu perds ton temps. Sale riche, rends-moi mon argent. Sale riche, sale riche, sale riche, sale riche. Sale riche, sale riche, sale riche, sale riche.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité, pour la dernière partie de Jeudi Noir. Et ce soir, donc, Michel nous présente le livre de Queen Slobodian, Le capitalisme de l'apocalypse, ou le rêve d'un monde sans démocratie. Finalement, on commence à comprendre que c'est peut-être le sous-titre qui est plus évocateur que le titre lui-même. On vient d'écouter un magnifique titre de Manuel J. Grotesque, Sale Riche. Et peut-être que pour la dernière partie, Michel, tu vas nous parler. Alors, on ne peut peut-être pas parler d'une idéologie, mais du racisme, en fait, qui sous-tend quand même cette vision-là de zone séparatiste. Et qui, en fait, dans la continuité de la lutte contre la démocratie, qui va peut-être prôner ou batailler pour. Une séparation, donc ce que tu disais, de gens qui ne veulent pas vivre ensemble.
C'est le côté colonial qui se perpétue, sans doute en partie. Ici, là encore, un peu comme pour les ZAD, j'ai l'impression qu'on a affaire à une espèce de parodie d'extrême droite de pas mal de trucs de gauche. C'est-à-dire, d'un côté, et là, ce seraient les groupes affinitaires. C'est-à-dire qu'on trouve particulièrement chez les libertaires, avec l'idée que, justement, le lien entre les individus doit être libre et consenti, en quelque sorte, pour, justement, éventuellement être plus efficace, et qu'il ne doit surtout pas être imposé par une espèce d'autorité supérieure. Et ça, les anarchistes de droite l'ont très très bien compris, et eux, ils veulent être entre blancs. En gros. Parce que, et donc, il va y avoir comme ça tout un tas de projets, finalement, qui sont parfois, là encore, pétris de contradictions. Ça, c'est quand même un truc qui est frappant, c'est que c'est pas du tout... je pense que intellectuellement, c'est quand même... Alors c'est parfois un type comme Nozick qui est parfois relativement assez un peu fascinant parce que c'est quelqu'un qui à certains égards est très brillant. Dans l'état anarchie utopie ça apparaît souvent et en même temps t'as vraiment l'impression que ils ont un rapport à la réalité qui est quand même très problématique. Et donc là-dessus le truc donc ça c'est la deuxième partie du livre, ça va être sur ce qu'il appelle les bantoustans libertariens. Alors là aussi j'ai appris des choses que j'ignorais. C'est que en Afrique du Sud, dans les années 80, à la suite de la pression internationale qui était faite à cause de l'apartheid, il y a eu une espèce de pseudo-tentative de pour se redorer le blason de la part de l'Afrique du Sud, et ils ont créé à l'intérieur même de l'État sud-africain. Ce qui s'est appelé des bantoustans, c'est-à-dire des espèces de zones qui étaient supposément souveraines, avec des drapeaux, un hymne national, un gouvernement, pas de démocratie, surtout pas, une fois de plus, surtout ouais. Les gens votent pas, mais avec l'idée que, à l'intérieur de ça, il y avait plus d'apartheid. Et ça a été défendu énormément par un type assez curieux qui s'appelle Léon Louve, qui est un Sud-Africain, qui là, lui aussi, est de la société du Mont Pèlerin. Et lui, il se présente, il est contre l'apartheid, parce que pour lui, alors il dit être contre l'apartheid. Là encore, ça marche pas vraiment. Alors ce qu'il va dire, pour lui, c'est qu'un programme social parmi d'autres, payé par les contribuables et impliquant un niveau important d'intervention, incorporant des barrières de couleur sur le marché du travail... Ça, c'est mal. Des programmes sociaux pour la population blanche et la propriété étatique de nombreuses entreprises. Et lui, il pense que l'ordre social serait mieux assuré par la liberté du marché, plus à même d'apporter la prospérité que le capitalisme racial dirigé par l'État que constitue la politique d'apartheid. Alors là, tu dis, mais c'est quoi ce mec quoi? Ici, donc, ils vont produire. Alors, lui, son modèle, c'est les zones franches d'exportation. Avec, et lui, il pense que il prétend en quelque sorte être favoriser une espèce de retour à une mentalité noire qui serait plus favorable à la liberté du marché. Faut suivre, hein, parce que c'est quand même très acrobatique et sans doute partiellement délirant. Parce que le but du jeu, ça va quand même être, au bout du compte, c'est toujours pareil, c'est de supprimer les aides, c'est de supprimer l'État, surtout supprimer les aides sociales plus que de supprimer l'État, favoriser le libre marché. Et donc, ici, l'idée, c'est que, alors ça va être un truc complètement artificiel, parce que dans ces zones libres, en fait, les investisseurs seront incités par l'État, de telle façon, ils touchent de telles subventions, qu'en réalité, ils gagnent de l'argent en recrutant des gens, même si les gens ne font rien. Parce que l'État leur donne plus d'argent que ce qu'ils payent les gens. Donc c'est aussi, d'un point de vue très réaliste, ça peut être aussi interprété comme un gros détournement de fonds publics vers le privé, hein, une redirection. Ça c'est souvent quand même un truc très très fréquent. En réalité, le but c'est de sabrer tout ce qui peut être ressembler vaguement à des aides sociales pour les rediriger vers l'entreprise privée. Et donc lui, parmi les trucs qu'il va quand même proposer, vous aurez qui vont découler de ça. Vous avez tout un tas de, par exemple, un truc qui va s'appeler Orania, où l'idée c'est que les Afrikaners, les Africains du Sud blancs vont vivre dans une espèce d'îlot séparé. Et leur idée c'est de vivre entre eux en se séparant le plus possible de l'État. En ayant des armes et surtout en excluant les Noirs.
Ça date de quand, ça?
Ça, c'est dans les années... 80, je crois.
Mais on est en plein, donc, dans la
90. Où, 90. 1990, un groupe répondant au nom de Fondation pour la Libération des Afrikaners. Faut le faire, quand même. qui achète donc un terrain et des bâtiments dans le centre de l'Afrique du Sud. Il en expulse les occupants métis, sans titre, pour ensuite ouvrir une enclave blanche Boer, plutôt, je sais jamais comment ça se prononce ça, surnommé Orania. Et l'origine du projet de colonie remonte au début des années 1980. Et alors après, bon, Le truc, comment ? C'est que évidemment, c'est pipeau complet. Parce que ces fameux bantoustans ont une souveraineté totalement nominale, qui correspond à rien de réel, et qui va, comment dire, qui en réalité va disparaître avec l'élection de Mandela, mais immédiatement. C'est-à-dire, il y a une espèce de pseudo coup d'État, et tout ça, ça s'effondre en un tour de manche. C'était une opération de... Alors, le Sud-Africain fan du... fan des zones franches sans réglementation étatique, le libertarien.
Elon Musk.
Bah, faudrait voir, à tous les coups, il y a des liens.
Il ne le mentionne pas. Elon Musk, mais... il a vécu jusqu'à, je crois, 17, 18 ans en Afrique du Sud, hein, de l'apartheid.
Dans une enclave blanche.
Alors, je suis pas sûre, mais voilà, et on a une figure aussi comme donc tout ça aux États-Unis, Peter Thiel.
Peter Thiel, il le cite beaucoup.
Ah voilà, un des fondateurs de PayPal, qui lui, c'était en Namibie, son père bossait pour des activités clandestines du gouvernement ségrégationniste, etc. Donc on est vraiment dans cette ligne là.
Et tout ça, ça va se retrouver aussi aux États-Unis avec un gars dont je vous avais parlé, Murray Rothbard, et avec là encore toutes les contradictions qui sont inhérentes à ce mouvement qui est quand même très très spécial d'un point de vue. Parce que Rothbard, lui, globalement par exemple, il va à un moment voir dans le nationalisme une force positive qui alimente les processus de sécession. Et donc il va soutenir tout ce qui, en quelque sorte, à ses yeux, peut miner la souveraineté d'un État unique et créer des micro-États. Et donc, de façon assez particulière, il va, par exemple, s'intéresser au potentiel que représente le nationalisme noir aux États-Unis. Ouais. Il soutiendrait plutôt, en tout cas, sans doute dans sa tête, pas en vrai, Malcolm X que Martin Luther King. Parce que Martin Luther King a un discours qui est trop fédérateur. Et pareil, Malcolm X, en vieillissant, a un discours plus fédérateur qui lui déplaît profondément. Et à partir de là, lui, il va se dire... ça marche pas. Les organisations de gauche sont trop égalitaristes, sont trop universalistes, y compris celles qui défendent un nationalisme noir américain. Et donc, il va plutôt, comme lui, il est convaincu qu'il y a une hiérarchie biologique entre les individus. Rothbard, à partir de là, il va davantage soutenir justement des communautés blanches séparées. Fondé sur le modèle du regroupement ethnique, en fait.
Et de fait, ces zones, celles qu'on observe aujourd'hui, c'est le fait de blancs, essentiellement. Ou est-ce qu'il existe des zones...
Essentiellement des blancs, je crois. Tous les exemples qu'il prend, même en Somalie, c'est le délire d'un blanc, qui se dit qu'en Somalie, il y a un coup à jouer. Parce que l'État, un État qui s'était constitué de façon un petit peu, de briquet de broc à la suite du retrait des colonialismes français, belges et anglais. Donc il y a une guerre civile, et là, lui, il y a un gars qui se dit, qui est assez barré, pour le coup, qui va justement essayer de se dire s'il pourrait pas, il essaie de s'allier avec... les tribus somaliennes, parce qu'en fait, ils voient un intérêt dans le... c'est des choses qui sont vraiment... On a affaire à des frics. Hein. David Friedman, son alter ego, c'est un prince berbère du XIIIe siècle.
Oui,
le gars signait en arabe, faisait du cosplay. Et lui, là, le gars dont je vous parle, dont le nom m'échappe, peut-être McCallum, lui, ce dont il rêve, à un moment, il se dit « Ah, et si je passais un accord avec des tribus somaliennes qui rejettent l'État et qui ont un modèle de fonctionnement finalement infra-étatique, et on pourrait fonder la tribu des Blancs. et paraît-il que les tribus somaliennes lui avaient dit vas-y, avec tes amis capitalistes, vous fondez une tribu, et si jamais ça marche, les autres vont faire comme vous. On va vous imiter. Et donc c'est quand même assez grandiose. Et donc moi je trouve que c'est malgré tout un livre qui est... Alors après il va parler du métavers, et donc il évoque pas mal d'exemples, mais sa conclusion est peut-être très intéressante par rapport à ce que tu disais, c'est que pour lui quand même au bout du compte Attends, j'essaie de trouver des passages peut-être les plus importants. Ouais, c'est que peut-être que la démocratie a été un moment inévitable, parce qu'ils ont un petit côté marxiste. Mm-hmm. C'est-à-dire un petit côté ouais, du genre, là, il y a une espèce de lien entre les formes de vie politique et l'infrastructure économique. Et ils pensent, eux, qu'on est arrivé à un stade où finalement l'État est peut-être devenu inutile. Sauf que lui, ce qu'il va dire, c'est que ça marche pas. C'est-à-dire, ça marche pas pour plein de raisons. Et donc, ce qui va réunir finalement les autoritaires étatistes de droite capitalistes et les minarchistes ou l'anarchistes de droite, c'est l'idée que le capitalisme non démocratique est la formule gagnante. Ce qu'il faut se débarrasser, c'est de la démocratie. Merci. Mais ensuite, il ajoute, les zones sont partout, mais contrairement à la rhétorique de ceux qui les promeuvent, elles ne semblent pas être des endroits libérés de l'État. Au contraire, elles sont des outils dont les États se servent pour atteindre leurs propres objectifs. Et donc, ici, par exemple, il va dire, voilà, la création d'un marché foncier dans la Chine rurale, par exemple, devrait laisser 110 millions de villageois sans terre d'ici à 2030. Loin de transformer le monde en une mosaïque d'un millier d'entités politiques différentes engagées dans une concurrence dynamique, ce qui, ça, est le projet verbal, disons, les zones ne font que renforcer la puissance d'une poignée de superpuissances pratiquant un capitalisme d'État. Et donc, lui, ce qu'il va ajouter, en citant peut-être un auteur, je ne sais plus, oui, il cite le cas de Palantir, par exemple, qui cherche à mettre la main sur tout un tas de trucs d'État, et dont il était le PDG. Et comment ? Il va dire, voilà, les bons capitalistes savent que le véritable jeu consiste à s'emparer de l'État existant et non chercher à créer un nouveau. Et donc là-dessus, je pense que c'est peut-être ça la conclusion, c'est que le rêve sécessionniste, finalement, n'affranchit pas du tout en réalité de l'État.
Donc c'est une lecture que tu recommandes ?
Moi, oui, malgré votre scepticisme à Morane et à Jean-Mathias. Donc c'est une lecture que je recommande, et puis voilà.
Accessible en termes de lecture.
Très accessible, ça se lit bien. Queen Slobodian, Le capitalisme de l'apocalypse, aux éditions Au Seuil. Vous trouverez l'émission sur le site de José, Gurdulu, Archive. Et ensuite, on va laisser la place à Musique en lutte.
Shit, boy! Sit down! Shit, boy! Come on! Musique en lutte.
Musique en lutte.
Dans les mouvements libertaires.
Le mouvement anarchiste.
Une cause militante, presque insurrectionnelle.
Nous sommes battus.
On peut faire de la musique militante tout en faisant de la pop.
La culture peut changer les choses.
Et que ce soit le peuple qui puisse se faire entendre
contre le pouvoir en place.
Les gens qui ont refusé toute autorité d'où qu'elle vienne.
Tous les chefs du gouvernement représentent le pouvoir. Et en politique, le pouvoir est forcément une forme de la lutte contre le peuple.
Salut à vous, auditrices et auditeurs de Radio Libertaire. C'est maintenant l'émission Musique en lutte qui reprend l'antenne, avec notre seconde partie sur le sujet traitant des musiques d'extrême droite. J'ai donc déjà passé en revue les musiques folk, rock, waves, indus, metal, ainsi que la chanson. Et cette fois-ci, je m'attarderai sur le rap, les musiques électroniques, ainsi que d'autres mouvances contemporaines, avant de terminer sur la mise en place de concerts et festivals ouvertement néo-nazis. Évidemment, comme la dernière fois, la bande-son de l'émission sera composée de musique antifasciste. Mais en guise d'introduction et avant de rentrer dans le vif de notre époque, je tenais à revenir sur deux anecdotes très similaires datant de 1976. Car en effet, le monde de la pop flirte aussi parfois avec l'imagerie nazie par croyance ou conviction. Par exemple, des stars aussi en vue que David Bowie ont pu répandre des déclarations pro-fascistes. Comme lors de son passage à Stockholm en avril 1976, où David Bowie déclare à la presse qu'un leader fasciste ferait du bien à la Grande-Bretagne et qu'il est arrêté par les douanes à la frontière entre la Pologne et la Russie en possession de souvenirs nazis. Une autre déclaration scandaleuse a eu lieu en 1976 lorsqu'il fut photographié à Londres en sortant de la gare Victoria dans un geste que certains ont interprété comme un salut nazi, provoquant alors un grand scandale. Bowie a nié toute intention fasciste, expliquant qu'il s'agissait d'un simple mouvement du bras pour saluer la foule, figée dans une position ambiguë par la photographie. Cette période, marquée par le personnage du Thin White Duke, a été associée à des propos controversés sur Adolf Hitler et l'Allemagne nazie, que Bowie a ensuite désavoué, affirmant qu'il ne faisait que jouer un rôle théâtral. Ces déclarations, combinées à son comportement pendant la période du Thin White Duke, ont été attribuées par Bowie lui-même à son addiction à la cocaïne et à l'aliénation liée à son séjour à Los Angeles. Il a réitéré à plusieurs reprises son opposition au fascisme, au racisme, dans les années suivantes, notamment en soutenant la campagne Rock Against Racism. Et en 1976, toujours, lors d'un concert à Birmingham, c'est Eric Clapton qui a pu émettre publiquement son souhait de voir se préserver une Angleterre blanche et de foutre les étrangers dehors. Il craint alors la surpopulation et de vivre dans une colonie noire. De plus, il affirme son soutien au député ultra-conservateur Enoch Powell. Eric Clapton s'est depuis excusé, attribuant sa sortie de route à son combat contre ses addictions et se dit honteux, tout en expliquant qu'il a des amis noirs. Mais revenons donc à une époque plus récente et à la musique rap. Nous avons déjà évoqué les dérives du rap lors de notre émission numéro 5 en compagnie du chanteur Irascible. Nous avions alors évoqué des sujets comme le complotisme et l'antisémitisme. Aujourd'hui, je vais donc plutôt faire le point sur les mouvances nationalistes. En France, le rap d'extrême droite ou rap identitaire apparaît à la fin des années 90, soutenu par la mouvance identitaire et